Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Si la question de la laïcité en France revient souvent sur le devant de la scène, elle est aussi un des principes de la Fédération nationale de la libre pensée qui se réclame dès l'article 2 de ses statuts de la raison et de la science. Cette association qui date de 1847 et qui est à l'origine de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 compte aujourd'hui des fédérations locales indépendantes dans presque tous les départements. Alors qu'est-ce que la libre pensée selon ses membres? Quelles grandes évolutions et grands événements l'association a-t-elle connu au fil des années? Qu'est-ce qu'être libre penseur aujourd'hui et au niveau local, comment on agit? Dans cette interview, nous allons tenter de répondre à ces questions avec trois libres penseurs de la Fédération ardéchoise et drômoise que sont Jean, son secrétaire, Christian qui est membre et actif rédacteur de la revue Le Mécréant, et puis Claude qui est le vice-président donc de la Fédération ardéchoise et drômoise. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer et nous expliquer comment vous définissez la libre pensée?
Ah, il paraît que Claude, c'est à moi de répondre, donc je vais essayer de le faire. La libre pensée, d'évidence, le mot libre est déjà en soi très parlant, et le mot pensée le complète parfaitement. Donc la libre pensée, c'est le refus des dogmes. C'est un amour fou de la liberté, de la réflexion, et la libre pensée en tant que telle, en tant qu'organisation, tend à mettre en place un mode de réflexion et un mode de pensée qui permet de satisfaire aux exigences, entre autres et principalement, de la loi de 1905.
Alors vous dites le refus des dogmes au sens large?
Les dogmes au sens large, puisque c'est pas seulement par rapport aux religions, mais c'est aussi par rapport à un certain nombre de réflexions qui ont été menées à une certaine époque, bon, à tout hasard, Alexis Carrel, pour ce qui est de l'eugénisme, puisque c'est une période contemporaine du vote de la loi de 1905. Donc ça fait partie de ces dogmes ou de ces idées saugrenues contre lesquels nous agissons et nous essayons d'être efficaces.
En fait, oui, on peut rajouter donc l'antimilitarisme, hein, puisque partant de la définition que Claude vient de donner, inévitablement, nous serons antimilitaristes, nous sommes antimilitaristes et nous sommes anticapitalistes, c'est-à-dire que nous refusons le dogme capitaliste, qui est un dogme qui, évidemment, attaque l'individu très fortement.
On pourrait dire, pour résumer, que l'obéissance n'est pas notre tasse de thé. Peut-être un mot sur l'histoire de la libre pensée.
C'est ce que je voulais vous demander, justement, qu'on fasse un petit saut dans le temps.
Oui, oui, oui. Donc, en 1847, la libre pensée est née de la rencontre de militants du mouvement républicain et ouvrier naissant, qui se fixait pour but la laïcité de l'école et de l'État et la lutte contre l'oppression religieuse, en s'appuyant bien évidemment sur tous les débats, toutes les questions qui avaient pu être abordées aussi bien dans l'Antiquité qu'à la Renaissance, et aussi et surtout au siècle des Lumières et à la Révolution française évidemment. On peut dire aussi que la libre pensée, ça n'est pas forcément connu de tous, a compté parmi ses membres des personnalités qui ont indiscutablement marqué leur époque. On pourrait citer Victor Schœlcher, qui a été l'un des artisans de l'abolition de l'esclavage, Auguste Blanqui, Louise Michel, Victor Hugo, Aristide Briand, Émile Zola, Anatole France, Jean Jaurès, Jean Rostand, pour ne citer que, sans oublier Marc Blondel, qui en fut le président jusqu'à son décès en 2014.
Alors, cette association, elle s'appelait comme ça au départ d'ailleurs, Fédération Nationale de la Libre Pensée.
Oui, je pense que oui. Enfin, peut-être pas sous la forme Fédération Nationale,
oui.
Mais...
C'était la Libre Pensée.
La Libre Pensée, tout court, oui, sans doute. Oui.
Donc, elle a évolué au fil des années, au fil même des siècles. Et il y a eu des grands événements qui ont marqué les libres penseurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, ben on pourrait parler en particulier de la loi de 1905, qui est quand même une date extrêmement importante pour les libres penseurs. En particulier par le fait qu'ils ont été les artisans de cette loi, puisque Aristide Briand, par exemple, qui était le rapporteur de la loi de 1905, était libre penseur. Jaurès y a également participé, enfin bref, un certain nombre de débats ont été alimentés par les libres penseurs. Il faut dire d'ailleurs que cette loi de 1905 a été un véritable exemple de démocratie, en ce sens que enfin c'est même des débats qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, où les ordres du jour de l'Assemblée nationale sont fixés par les gouvernements. Il y a eu à ce moment-là un débat, et cette loi est une loi de compromis en quelque sorte, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi anti-religieuse. C'est une loi qui permet la liberté de conscience, dans laquelle est inclue la liberté de culte.
Oui, je crois que la loi de 1905 est une loi d'apaisement, finalement, ouais. À l'époque. Bon, la France sort de quelques centaines de milliers d'années de guerre de religion. On sort de l'affaire Dreyfus, rappelez ça, et les représentants du peuple vont trouver un système pour faire vivre tout ce petit monde ensemble. Dans le respect, voilà, et la loi de 1905 va réussir ça, ce grand tour de force, qui est de respecter la liberté de conscience, c'est-à-dire croire ou ne pas croire, voilà, mais aussi la neutralité de l'État par rapport au culte, voilà, et là, on est toujours sous ce modèle-là, qui est assez rare, finalement, dans le monde.
Claude, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter que dans ce contexte-là, a été mis en place, on va dire, parce qu'il est en perpétuelle évolution, le concept de laïcité. Alors ce concept est un concept complexe, qui permet d'ailleurs à un certain nombre d'escrocs intellectuels de se l'approprier pour lui faire dire un peu n'importe quoi. Et ça, c'est aussi l'un des travaux de la Fédération nationale et de la Fédération internationale, c'est de garder en quelque sorte la ligne qui n'est pas un dogme, mais une ligne de clarté par rapport à ce concept complexe.
Donc vous venez de donner un petit peu la définition, Christian, hein,
oui,
de la laïcité.
De la laïcité un petit peu, oui, rapidement, voilà quoi. Effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Claude, je crois que notre gros travail aujourd'hui, c'est justement d'essayer de faire attention à ces définitions de la laïcité qui sont données par beaucoup de nos femmes et de nos hommes politiques, et qui sont des déviances de la laïcité. Je rappelle que la laïcité, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les citoyens. Et on ne peut pas, au nom de la laïcité, ostraciser une certaine partie de la population. Ça, c'est pas possible. C'est pourtant ce qu'on entend dans pas mal de discours aujourd'hui. Voilà.
Et une des choses que vous faites, une des actions que vous menez, vous, libres penseurs, c'est de défendre cette loi 1905 en assurant une veille, en étant vigilant sur ce qui se passe localement.
Oui, oui, tout à fait. On est amené très fréquemment à intervenir le plus souvent en écrivant à des élus en particulier qui prennent... je ne sais pas si on peut appeler ça des libertés, avec la loi de 1905, certains pour des faits qu'on pourrait qualifier de mineurs, mais qui sont tout à fait inquiétants. Et puis, bon, on a l'expression, par exemple, récente de Laurent Wauquiez, qui, ce n'est pas le seul d'ailleurs, qui persiste à installer une crèche, voire des crèches, dans le hall du conseil régional. D'autres ont voulu également faire la même chose en Vendée. On le trouve aussi chez M. Ménard à Béziers et on le trouve chez Monsieur, j'ai oublié son nom, à Hénin-Beaumont. Bref, il y a une tentative de remettre en cause cette loi de 1905. Et d'ailleurs, on entend même un discours totalement absurde où nous sommes accusés, nous, d'être des intégristes alors qu'on se contente de demander l'application de la loi. Donc, effectivement, dans certains cas, on le fait sous forme de lettres, mais il nous arrive d'attaquer en justice. Ça a été le cas pour Laurent Wauquiez et le tribunal administratif nous a donné raison. De même que le Conseil d'État sur ce même sujet. Il y a aussi un autre exemple, par exemple, à Ploërmel en Bretagne, où au centre de la commune trône une gigantesque statue de Jean-Paul II surmontée d'une croix, ce qui est expressément interdit par l'article 28 de la loi de 1905 qui dit qu'on ne peut apposer une croix en aucun lieu public à partir de 1905. On nous a aussi accusé de vouloir éradiquer le pays de tous les crucifix, de toutes les croix qui pouvaient se trouver partout. C'est un procès complètement stupide. C'est très clairement dit dans la loi, c'est à partir de 1905 et uniquement. Le reste relève du patrimoine.
Alors assurer cette veille, être vigilant pour faire respecter cette loi, c'est une des missions que vous vous donnez.
Mission, oui.
On peut dire ça comme ça.
On peut dire ça comme ça, oui.
Est-elle divine.
Et vous faites aussi d'autres choses, vous transmettez oui. aussi beaucoup de choses. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on va en parler de ce que vous faites aussi au niveau local, puisque vous proposez différentes actions. On va écouter un morceau d'un musicien qui s'appelle Nico Gamet et la chanson s'appelle Stronger et on se retrouve juste après sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fé.
I'll be stronger watch on the wheels creep. Where are you friend, your kindness disappear. Have you ever felt this disease, where is the end which claps upon your feet. When the sun goes down, oh.
chères auditrices et auditeurs, vous êtes toujours sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fé, c'est le Zoom de la rédaction. Et dans le studio aujourd'hui, eh bien, ce sont trois libres penseurs qui font partie de la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée, qui sont là avec moi et qui échangent. C'est la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée, c'est une structure qui défend la laïcité et qui s'oppose à toute forme de dogme. Alors, sur le territoire, eh bien, la fédération compte à peu près 75 membres. Et au-delà de la veille dont on parlait, hein, de la veille que vous assurez pour faire en sorte que le religieux reste bien dissocié du politique, hein, comme le veut la loi 1905, quelles actions vous menez sur le territoire pour faire partager vos idées, Claude ?
Oui, juste avant, un petit mot encore sur la laïcité, sa définition et l'utilisation qui en est faite, de la définition, j'entends. Je voudrais aborder avec une citation de Albert Camus qui dit que mal nommer un objet, il s'agit là d'un objet philosophique, il ne s'agit pas d'un fer à repasser, c'est ajouter au pluriel, malheur au pluriel de ce monde. J'insiste parce que en fait cette citation est souvent détournée et c'est une preuve d'ailleurs de la malhonnêteté intellectuelle de certains qui ne parlent pas d'objets mais qui parlent de choses et qui ne parlent pas de ce monde mais qui parlent du monde en général. Donc cette interprétation elle est validée par Simone Weil avec un W et Chomsky. Je crois que c'est extrêmement important actuellement. Beaucoup de gens, j'y reviens, mais j'insiste beaucoup là-dessus, beaucoup de gens, en particulier des politiques, se permettent d'utiliser à des fins détournées le concept, je le redis, qui est un concept compliqué et qui mérite qu'on s'y attarde.
Justement, est-ce que vous prenez des temps d'échange avec les citoyens pour... essayer de définir ce concept de laïcité pour essayer de le faire respecter, cette définition, au sein de la fédération ?
Oui, alors en deux mots, nous avons des réunions régulières qui sont sous la forme d'assemblée générale. On va fonctionner comme ça. Le bureau, qui définit un certain nombre d'axes, la commission administrative, qui établit le travail de la fédération, et des assemblées générales, au cours desquels les débats sont toujours, en général, assez longs, et abordent systématiquement ce concept parce que les actions qui sont menées sont sous-tendues par cette idée. Quoi.
Ça, c'est entre libres penseurs.
C'est entre nous. Et ensuite, alors là, c'est...
Voilà, oui. On organise, entre autres, un certain nombre de conférences en divers endroits de l'Ardèche et de la Drôme. Pour donner quelques exemples, en 2016, on avait une conférence qui était « La science écologique et la politique écologiste ». Et il y a eu également « Les religions contre les femmes ». En 2017, on a fait une conférence « Islam et laïcité », puis « La commune de Paris et la démocratie ». Et aussi deux conférences, dont une qui s'est faite à Eure, sur les mutineries de 1917. Et c'est vrai que je peux faire le lien aussi avec l'une de nos activités qui est d'organiser des rassemblements sur des points divers. C'est-à-dire que par exemple chaque année on se rassemble à Joyeuse avec l'Association républicaine des anciens combattants et l'ALAMPA, qui est l'association laïque des amis des monuments pacifistes et antimilitaristes de l'Ardèche. Parce qu'à Joyeuse, en Ardèche, il y a un monument pacifiste, et on est, cette année, on était une centaine, et c'est nous qui avons été à l'initiative de ce rassemblement, dont c'était la 14e édition, je crois. On était également présents devant l'insurgé de Cré, le 10 décembre, je crois. Là, on est présent devant l'insurgé de Cré pour commémorer l'insurrection de 10 000 Dromois en 1851. On y est présent depuis 2012. Auparavant, ce rassemblement existait sans qu'on y soit présent, organisé par des élus de Cré et autour de Cré. Et depuis 2 ans, c'est nous qui l'organisons, parce que les organisateurs historiques, entre guillemets, n'ont pas souhaité continuer. On est également présent à Die, enfin on a été plusieurs fois présent à Die le 20 septembre, qui est la journée internationale de la libre pensée. Je pourrais dire aussi qu'on organise chaque année un repas contre les interdits, qui est une très vieille tradition anticléricale et qui se tient le vendredi dit saint. Et à ce repas, bien sûr, on mange gras. Et on boit et on est très content.
C'est à quel moment de l'année ?
C'est au moment du vendredi saint, entre guillemets, dont nous ne reconnaissons pas la sainteté, mais qui se tient en avril, je crois. Enfin, la date est flottante, hein. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas eu de culture religieuse.
Alors, tous les trois, vous êtes libre penseur. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours à vous de libre penseur. Qu'est-ce qui vous a mené à rejoindre cette association, cette structure qui aussi se veut totalement indépendante de tout mouvement politique ? Christian ?
Personnellement, je crois que c'est le combat pour la laïcité à l'école, puisque c'était mon travail pendant pas mal d'années. J'ai toujours défini l'école comme un lieu d'apprentissage de la vie et de l'autonomie de l'individu. Et dans la formation des enseignants, il y avait cette notion de laïcité qui était très forte en nous, quoi, qui était ancrée. On travaillait pour ça, on travaillait là-dedans. Voilà, puis petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des dérives, qu'on commence à parler d'enseignement du fait religieux à l'école. Ce qui est déjà fait d'ailleurs, puisque chacun a entendu parler des religions polythéistes en histoire, etc., etc. Voilà, mais certains s'engouffrent là-dedans pour proposer que c'est Monsieur Régis Debray qui a été un peu à l'origine de tout ça. Certains proposent que cet enseignement du fait religieux à l'école soit fait par les religieux eux-mêmes. Et à partir de là, on tombe dans une école qui n'est plus libre, qui d'ailleurs, à mon avis, ne devrait plus s'appeler école, qui n'est plus un endroit d'émancipation de l'individu. Voilà.
Parler des écoles privées religieuses.
Je parle de toutes les écoles qui devraient être des endroits de respect de l'élève, de respect de sa pensée, de construction de la pensée, etc. Voilà.
Donc ça vous a mené à rejoindre ce mouvement qui est la libre pensée.
Tout à fait. Puis une vieille tradition familiale, on est libre penseur depuis 3 générations.
Ah. Alors, Jean ou Claude, qu'est-ce qui vous a amené à la libre-pensée ?
En fait, j'ai également une tradition familiale, puisque mes grands-parents étaient instituteurs laïcs, que mes parents étaient athées, que mes enfants sont également athées, et si tout va bien, mes petits-enfants suivront le même chemin, ce qui fera donc 5 générations. Mais c'est vrai que dans notre organisation, on rencontre les deux parcours, c'est-à-dire là, il se trouve que on est en ce sens pas tout à fait représentatif, c'est-à-dire que dans la libre pensée, il y a des gens qui ont eu un parcours religieux imposé par leur famille et qui ont passé leurs années d'école dans un établissement privé confessionnel ou qui ont été formés, ou déformés, et qui ont réagi à ce dogme qu'on essayait de leur imposer et qui du coup ont rompu avec la religion et ont rejoint la libre pensée. Ils sont nombreux aussi.
Et vous, Claude ?
Je ne sais pas si je dois commencer par la famille, mais on va commencer par la famille. J'ai un oncle qui était libre penseur. Mes parents étaient athées. Mon père a été un responsable syndical que l'on va qualifier d'important, puisque comme il n'est plus là, sa modestie n'en souffrira pas. Pour ce qui me concerne, j'ai commencé à faire de la politique très tôt, dès la faculté en fait. Ensuite, on m'a expliqué que, compte tenu des responsabilités que j'allais prendre dans une grande entreprise multinationale, c'était compliqué de continuer à faire de la politique. Donc c'est là que j'ai été candidat aux législatives dans les Alpes-Maritimes, parce que je n'ai pas l'esprit de contradiction, ce qui n'a pas du tout gêné ma carrière professionnelle d'ailleurs. J'ai toujours eu des activités politiques et syndicales. J'ai pris ma retraite, ou c'est ma retraite qui m'a pris, je ne sais pas. Et là, je me suis dit que peut-être je pouvais m'orienter vers cette tradition familiale qui consiste à, en fait à ne jamais être d'accord avec tous ceux qui sont d'accord avec tout le monde, quoi.
Alors, quelle est l'identité, la particularité de la Fédération ardéchoise et drômoise, puisqu'elle fait partie de la Fédération nationale, comme toutes les fédérations départementales de la libre pensée, mais vous me disiez en préparant cette émission qu'elles étaient quand même indépendantes et qu'elles avaient toute une couleur différente. Comment vous définiriez celle de l'Ardèche et de la Drôme ?
Je ne sais pas si elle a vraiment une couleur différente. Je pense que les débats qui traversent la libre pensée se retrouvent dans notre fédération comme dans d'autres fédérations, pas forcément au même moment. C'est un petit peu difficile à dire. Disons qu'il n'y a pas de tendance particulière. Les origines des gens sont très diverses. On peut peut-être dire le fait que la libre pensée a été toujours historiquement lié au mouvement ouvrier, fait que diverses tendances politiques se retrouvent dans la libre pensée. Il y a des gens qui sont adhérents à aucun parti, d'autres qui le sont. Il y a des gens qui sont syndiqués, ils sont assez nombreux en général. Et ça donne une diversité qui est vraiment intéressante et une possibilité de débattre et de se mettre d'accord sur des choses qu'on considère comme essentielles. Il y a une chose à dire aussi peut-être, c'est que notre fédération a été finalement soudée par le fait qu'on a organisé le congrès national à Bourg-les-Valence l'an passé, donc au mois d'août 2016, ce qui était un petit peu une gageure parce que c'est quand même une organisation lourde. Il y avait 200 participants, 200 délégués, et ça s'est fait au lycée du Valentin à Bourg-les-Valence, et ça s'est extrêmement bien passé. Plus de la moitié des adhérents ont participé à l'organisation, et voilà, c'est un truc qu'il fallait dire. Un mot sur l'organisation aussi, on est organisé en groupe localement, donc il y a un groupe à Aubenas, un groupe à Annonay, un groupe sur Valence-Roman et un groupe sur Die et Cré, quoi, en gros.
Alors, on arrive à la fin de cette interview. Peut-être que je peux vous poser une question. À votre avis, quel est l'avenir de cette association ?
Ben, l'avenir, il est chaud. Hein. Comme disait Claude, je crois que les attaques sur la laïcité aujourd'hui sont multiples. Viennent de gens qui, en fait, refusent la société multiculturelle que nous vivons. Donc, notre travail, c'est vraiment un travail de rappeler ce qu'est la laïcité, de rappeler ses fondements, rappeler cette loi républicaine dont elle fait partie. Nombreux combats encore, je pense, par exemple, ça me passe par la tête, le combat des femmes, qui a pris son envol après la loi de 1905, avant évidemment aussi, mais qui s'est structuré parce qu'à partir de la loi de 1905, on disait que le dogme n'existait plus et que la femme n'était pas forcément assujettie à l'homme et l'homme pas forcément assujettie à Dieu. Donc ces combats-là doivent continuer, ces combats-là ne sont pas finis, nous en sommes loin, et voilà, quoi, il faut y aller.
Et en termes de construction, on pourrait ajouter aussi que ce qui nous attend, c'est de continuer à répandre à travers le monde les idées de la libre pensée. C'est-à-dire que l'Association internationale de la libre pensée a tenu son 7e congrès à Paris, là, au mois de septembre. Et c'est vrai qu'il y avait des délégations des 5 continents et des intervenants. Je citerai quelques noms de pays parce que c'est intéressant. Des intervenants qui venaient de Tunisie, du Sénégal, d'Argentine, de Pologne, du Chili, d'Australie, du Royaume-Uni, d'Italie, d'Inde, du Canada, des États-Unis, d'Uruguay, d'Irlande, d'Espagne, d'Allemagne, du Nigeria, de Hongrie, de Suisse, de Belgique et de France. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Alors, chaque pays a évidemment son histoire.
Oui, son contexte.
Et les actions qu'il peut avoir sont complètement différentes parfois, le nombre des adhérents est aussi complètement différent, mais cet international de la libre pensée, c'est vraiment quelque chose à construire, à développer.
Alors si les auditeurs souhaitent poursuivre, en savoir plus, il y a un site internet, je crois, de la Fédération Nationale de la Libre Pensée.
Voilà, tout à fait, qui s'appelle fnlp.fr, FNLP comme Fédération Nationale de la Libre Pensée.
Et s'ils souhaitent suivre ce que vous faites au niveau local, est-ce que...
Alors au niveau local, on a une adresse mail qui est librepensee07.26@gmail.com.
Est-ce qu'il y a un événement qui est prévu, qui est programmé dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent ?
Dans l'immédiat, pour nous, il y aura l'Assemblée Générale le 20 janvier, bon, mais qui est un événement interne. Et il y aura la date, je ne l'ai pas en tête, ce repas contre les interdits religieux dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et ça, c'est à 10, c'est ça ?
Non, on le fait à Cruas général. Ouais. Mmh.
Mmh. Bah merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans le studio de Radio Saint-Fée pour nous faire partager tout ça. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
Merci.
Au plaisir.
L'interview du jour.